Les Grandes Gueules sur RMC avec Biofib. L'isolant en chanvre, idéal pour vos travaux de rénovation. Biofib, ça chanvre tout.
RMC, 9h midi. Les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story, les Grandes Gueules, avec aujourd'hui Barbara Lefebvre, Charles Consigny et Bruno Pomard. Les Grandes Gueules qui vous envoient à la Coupe du Monde pour le match Tunisie-France le 30 novembre prochain. Vol, hébergement, place pour le match, plus la rencontre avec les équipes d'RMC Sport sur place, les gars de l'after, Jérôme Rotten. Tout ça, c'est pour vous. Un package all inclusive, comme on dit, tout inclus, tout frais payé. Vous m'envoyez RMC par SMS au 732-16, RMC par SMS au 732-16, et ce sera peut-être la chance de votre vie d'aller assister à un match de la Coupe du Monde au Qatar et rencontrer toutes les équipes d'RMC qui vous feront vivre les coulisses des émissions. Donc vous m'envoyez RMC par SMS au 732-16. On joue tout au long de la semaine et le tirage au sort a lieu vendredi en direct. Donc faut pas hésiter, RMC par SMS au 732-16. À vous de jouer, à vous de gagner. On y va pour le « à vous de choisir ».
RMC les Grandes Gueules.
À vous de choisir.
À vous de choisir. On vous a proposé deux sujets de discussion sur rmc.fr. Deux sujets de discussion. Vouliez-vous qu'on l'on parle de la fermeture des bureaux de vote qui s'accélère, notamment dans la capitale? Des bureaux de poste, pardon, et pas des bureaux de vote. Des bureaux de poste. ou bien ces communes, ces villes, ces villages qui renoncent aux illuminations de Noël parce qu'elles ne veulent pas voir leur facture d'électricité flambée, eh bien, vous avez choisi de parler des illuminations de Noël. Et c'est notamment dans la Creuse où on voit des communes dire bah, « Cette année, on ne fera pas d'illumination de Noël, on a trop peur de voir la note trop importante. »
Oui, alors effectivement, alors il y avait des grandes villes qui avaient déjà annoncé qu'elles reverraient la façon d'éclairer les villes à Noël, et donc ça touche aussi des petites communes. Alors parce qu'effectivement il y a une facture qui risque d'être importante. Après c'est un drôle de choix. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pourquoi on élimine les rues de Noël? Parce que c'est aussi bon pour le commerce, parce que on va faire ses courses, etc. Ça fait vivre les centres-villes. Là on est quand même dans une idée quand même de fermer les lumières, d'instaurer des couvre-feux. Finalement, d'accélérer un peu la récession qui arrive. Je regardais l'OCDE qui annonce que la croissance de la France sera à 0,6, non pas 1%, comme le dit le gouvernement, et que l'Allemagne sera en récession. Donc, on a l'impression que toutes ces mesures, qui au départ partent d'un bon sens, on va faire des économies, etc., accélèrent l'espèce de phénomène de décroissance où nos centres-villes, qui parfois quand même ont du mal à faire venir les clients, hein, puisqu'on préfère aller faire des courses supermarché, vont se transformer en quartier un peu tristounet, comme pendant le Covid. Alors, on réinvente le couvre-feu énergétique.
Dans le Loiret, par exemple, le maire d'une commune qui dit ce sera uniquement la façade de la mairie qui sera illuminée. Et de toute façon, il a donné.
Mais pourquoi déjà, la façade de la mairie?
Il a donné. Il a, parce que
c'est le symbole.
C'est la place centrale, c'est là où les gens pourront se retrouver. Et il a dit déjà à partir de 23h. Les extinctions des éclairages publics et tout, il veut faire baisser la note au maximum. Tu comprends ou pas?
Pas totalement. Moi, en tant que, alors mon petit village, c'est encore un autre sujet, mais nous on le fait, on va le faire d'ailleurs traditionnellement parce que c'est une tradition. En plus, ça égaye le village. Et je trouve que c'est intéressant de le faire. Pardon?
Les illuminations,
oui, bien sûr. Donc je pense que c'est une tradition et dans les villages on y tient beaucoup à ce genre de choses. Et puis en même temps, ce que tu disais, ça donne une espèce de d'impulsion, je dirais, dans les villes. Ça donne le sourire. Si on voit des centres-villes complètement éteints avec juste les magasins ouverts, je pense que pour un moment comme ça qui va durer quelques jours, c'est une fausse économie à mon sens. Je pense pas que peut-être les grandes villes à haut niveau, ça représente beaucoup le budget. Je le crois pas, très sincèrement, c'est un peu de l'affichage, à mon sens.
Après, on n'est pas obligé de mettre la mi-novembre, hein, aussi, comme le font certaines municipalités.
Il y a d'autres économies à faire, je pense.
On va attendre la première semaine de décembre. Ouais,
c'est ça.
Il y a plein de paramètres qui sont en jeu, et le paramètre de l'économie n'est pas le premier des paramètres. Je pense que ça va surtout être la question de la tension sur le réseau électrique général, qui va se poser aussi à un moment donné. Parce que si il s'avère qu'il y a véritablement des problématiques d'approvisionnement, il y aura une tension générale sur le réseau et que si en plus il y a les illuminations, maintenant l'ADEME il y a quelques années, il y a de nombreuses années quand même déjà, avait évalué que les illuminations de Noël c'était 1300 mégawatts, c'est-à-dire l'équivalent d'un réacteur nucléaire. Mais que là-dessus, c'était seulement 25% de responsabilité des collectivités et 75% pour les ménages. Parce que les ménages aussi, à l'intérieur des maisons, on allume les arbres de Noël. C'est environ 5 heures par jour pendant une vingtaine de jours.
La police du sapin.
Non, non, mais c'est que. je donne juste les faits pour expliquer donc que c'est pas véritablement le problème, le problème des collectivités finalement. Bien sûr, les collectivités, elles vont payer une facture, mais les ménages, je pense qu'il y a des gens. Alors, peut-être pas les gens qui ont les moyens de payer une facture d'électricité à 140 euros par mois, ça bon. Mais il y a peut-être des gens qui effectivement auront cette année d'abord des LED sur le sapin de Noël.
C'est de plus en plus ça d'ailleurs.
Voilà, parce qu'avec les LED, vous faites beaucoup plus d'économies d'énergie. Qu'ils l'allumeront peut-être moins longtemps, c'est-à-dire au lieu de laisser le sapin de 18h à minuit, ben ils le mettront que le temps que les enfants regardent pendant une heure ou deux et puis ils éteindront. Non mais il faut juste voir qu'il y a des gens qui ont plus des problèmes pour payer leurs factures d'électricité et donc même les ménages feront sans doute des économies d'énergie cet hiver. De là à pas du tout mettre le sapin de Noël ou de pas mettre un grand sapin, on peut éviter peut-être s'éviter les guirlandes qui sont, excusez-moi, extrêmement moches, hein, les guirlandes
sur les balcons,
sur les non, et même au milieu des rues là, les trucs qui pendent.
C'est sympa ce que je fais dans mon village.
Moi, j'aime bien,
je préfère un beau sapin unique comme ça qui brille.
Quel monde veut-on se créer?
Oui, c'est ça.
Un monde de tristesse, d'ennui. Alors bien sûr, on va dire c'est pas essentiel.
T'es pas obligé de les mettre de s'illuminer.
Quelqu'un va nous appeler en disant mais c'est pas essentiel. Mais oui, mais la vie, il y a plein de choses qui ne sont pas essentielles, mais qui font aussi.
C'est de la gaieté, c'est du festif, voilà, tu as raison, je suis d'accord avec toi.
Mais d'accord, mais dans le même temps.
On va avoir une police des ampoules, une police du sapin, une police
dans le même
du
temps,
chauffage.
Dans les cinémas, par exemple. Dans les cinémas, vous avez aujourd'hui des séances, de 11h ou la séance de 13h qui est complètement vide. Il y a aujourd'hui des cinémas, je ne parle pas encore une fois des gros multiplexes, mais certains cinémas disent qu'il faut diminuer l'éclairage, baisser le chauffage, parce que sinon, même les gérants de cinéma, ils pourront pas payer la facture, donc à un moment donné, quand on peut pas payer la facture.
Restons à la maison, calfeutrés.
Mais c'est pas moi, hein, c'est pas moi qui suis allé décider.
Et continuons à consommer tout, parce qu'on consomme à côté comme des malades.
On est à prix du gaz à la con, j'y peux rien.
Le gouvernement, je suis d'accord, encourage, et après on va s'étonner qu'on est en récession. Forcément, on l'entretient cette récession.
Ah ben, c'est pas moi qui fait la police du chauffage au radiateur, c'est Madame Borne. Donc à partir du moment où ça va coûter cher pour les collectivités, je pense que si on passe un Noël où c'est un petit peu moins illuminé, on va pas en mourir. Voilà, j'ai pas dit se mettre la ville dans le noir.
Les illuminations dans les centres-villes.
Le commerce au marché de Noël pour acheter des trucs made in China. Bon, excuse-moi.
Mais non, c'est ça, restons à la maison.
Eh ben oui, pour acheter du miel made in China pourri.
Non, y a pas
ou
que
acheter
ça,
la petite figurine, le petit santon made in China. Excuse-moi, restez
dans le noir. Soit pas dans l'excès. Soit pas dans l'excès. Non, ben non.
Si, sur les marchés de Noël,
dans les marchés chez moi, on vend pas du miel chinois.
Dans les marchés de chez toi. Pendant longtemps.
Je te remercie de le signaler.
Moi, j'ai vu le marché de Noël à Rouen, excuse-moi, les trois quarts des trucs, c'était made in China. Excuse-moi, j'en parle à
l'intérieur. Même la saucisse et le fromage.
Les gens font pas toutes leurs courses de Noël au marché de Noël.
Alors, encore heureux.
Ils vont quand même dans les magasins et c'est vrai que.
Les magasins.
Bah oui, mais sans les magasins.
Pour acheter les jouets que ton gosse a déjà en triple exemplaire.
Sans les magasins. Mais sans ça, Barbara,
c'est le monde de Barbara Lefebvre qu'on est en train de mettre en place.
Sans ça, il n'y a pas de croissance.
Oui,
sans croissance, il n'y a pas d'argent pour la recherche médicale,
pour soigner,
le progrès technologique. Bah oui,
la consommation, ça permet beaucoup de choses.
Pour les policiers, pour les enseignants. Bah oui, désolé, mais oui. Bah oui.
Et pour polluer au plastique aussi, avec des jouets en plastique que tu as en 15 exemplaires.
Mais on fait des jurats en bois.
Non, il y a l'utile et l'inutile.
On fait des jouets en bois dans le jura, justement.
L'utile et l'inutile.
Oui, l'essentiel.
Non, j'ai pas dit l'essentiel et non essentiel, j'ai dit l'utile et l'inutile.
On a besoin de la consommation
et que de toute façon
une consommation juste oui,
mais
une
surconsommation
non.
La économique elle est poussée par puisqu'on ne produit plus rien,
la surconsommation la consommation juste.
Pardon Barbara, tu es prof, tu sais très bien qu'en France ce qui fait notre croissance c'est la consommation puisqu'on ne produit plus grand chose.
Mais justement,
si en plus ça tu n'en veux plus, je veux dire, on va être effectivement,
il y a croissance
pour l'avenir.
Non mais il y a croissance et croissance. Vous voulez faire une croissance qui continue d'abîmer la planète, qui continue d'abîmer les êtres humains, qui continue d'abîmer les estomacs et les intestins.
Du miel chinois.
Mais continuez.
Non mais du miel chinois.
Vous. Mais bien sûr que si pendant des années il y avait du miel, c'était du faux miel, c'était fait par les Chinois.
Tu aurais dû vivre avec Pierre Rabhi.
Non mais
partir
la question n'est pas là. La question, c'est que vous, vous croyez que...
Dans la forêt, là-bas, vivre...
Promouvoir une croissance juste, équilibrée, à la fois pour les humains et pour la nature, c'est être dans la décroissance. Pas du tout. C'est être dans une croissance qui n'est pas la croissance de la surconsommation. Je ne comprends pas.
Qu'est-ce que c'est la surconsommation?
Vous, mais la surconsommation, mais c'est ça. Mais c'est aller se ruer dans les centres commerciaux parce que c'est Noël.
Pardon de remarquer que les gens, dans un pays où le salaire médian est autour de 1500 euros, sauf erreur, ils ne sont pas en situation de surconsommation. Il faut arrêter le délire en France. En France, les gens ne surconsomment pas. C'est pas vrai.
Nous sommes avec Guillaume, qui est chef d'entreprise. Bonjour,
quand
Guillaume.
Regarde tout ce que les gens jettent.
Oui, bonjour. Vous
Guillaume,
m'entendez?
Oui, bien sûr. Qui nous appelle des Hauts-de-Seine. Et vous vouliez parler avec nous de ces municipalités qui décident de faire moins d'illumination de Noël.
Voilà. Donc, je n'habite pas à Boulogne-Billancourt. J'habite à Issy-les-Moulineaux. Bon, c'est juste à côté, mais c'est pas grave. Non, je voulais juste recadrer le débat, sans partir sur le réchauffement climatique, comme Barbara, elle vient de dire, tout ça. C'est juste, je veux parler des illuminations de Noël. Moi, je pense que normalement, les illuminations de Noël, il faudrait les laisser. Parce que les illuminations de Noël, c'est quand même quelque chose qui rassemble tous les Français, qui rassemble tous les enfants. C'est un moment de joie et de partage. Donc, comme Barbara, elle a dit, j'étais d'accord avec elle, ça veut dire qu'elle a dit que c'est l'équivalence d'un réacteur nucléaire. Et bien, dans ce cas-là, les fournisseurs, ils font gratuit la facture pour cette période-là aux communes. Ils font un geste d'effort national qu'on demande aux grands groupes.
Ben c'est nous, alors, parce que EDF est nationalisé maintenant.
Oui, il n'y a pas de problème, madame. Attendez, Barbara. Il y a Engie, il y a Eni, des fournisseurs d'énergie. Il y en a 36, il n'y en a pas que EDF. Il y en a plein.
Mais de toute façon, nos réacteurs, ils sont à EDF, bien sûr.
Mais dans ce cas-là, mais pourquoi demander encore aux Français de se mettre dans la misère psychologique, c'est-à-dire que c'est Noël? Pourquoi cette année il n'y a pas les lumières? Vous nous demandez des enfants. Pourquoi c'est pas éclairé le centre-ville? On va dire, ah, parce que tu vois, il n'y a pas d'électricité, c'est la guerre. Pourquoi cette fois-ci les grands groupes ils font pas un effort et ils disent pas, bon, bah, c'est gratuit pour les communes. Ça fait tant et ils payent pas.
Demandez à Ursula, hein. Qui nous explique qu'il faut se mettre dans le noir parce que c'est la guerre, c'est pas moi.
Ben voilà, c'est un geste que les grands groupes devraient faire et comme ça mettrait un peu de joie. Alors
après, l'électricité, et vous parlez des fournisseurs, mais les producteurs sont les mêmes. C'est-à-dire, c'est effectivement, on manque de réacteurs en activité. C'est pour ça qu'on est dans cette situation-là.
Regardez, je vais vous dire quelque chose. Comment ça se passe? EDF, ils produisent l'énergie, ils ont vendu à tous les fournisseurs. Donc j'ai dit, il y en a 36, il y a des fournisseurs. C'est-à-dire que la mairie de Saint-Leu-la-Forêt, elle est chez Engie, l'autre mairie, elle est chez EDF, il y en a, ils sont chez Total Energy. Donc chacun, il se sert, et les gestionnaires de réseau, c'est Enedis. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent que dans telle commune, on consomme tant à l'année, en général, c'est les charges fixes, et ben on rajoute l'éclairage à quelque chose près à tant de kilowattheures, et ben Engie, à ce moment-là, il fait une réduction sur la facture de cette période-là à cette période-là. C'est tout à fait possible. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on va imaginer que c'est compliqué. Les EDF, c'est seulement celui qui produit l'énergie.
Et vous pensez donc que des acteurs du privé de l'énergie vont faire des cadeaux?
Excusez-moi, madame.
Quand ils font des super profits, ils veulent pas qu'on les taxe. Excusez-moi.
Nous, les Français, on nous a tous demandé de baisser d'un degré le chauffage chez nous. C'est encore à nous qu'on a demandé. Voilà, elle ira vérifier. C'est à nous qu'on a demandé.
Le PDG d'Engie, lui, je crois que ça va. Il peut chauffer, il a les moyens de se chauffer plus.
Eux, ils nous demandent à nous de baisser. Cette année, moi, j'ai une société dans le bâtiment, bon, en plus dans l'électricité, je suis prestataire d'Enedis. Et donc, entre parenthèses, certains immeubles sur Paris, ils vont pas allumer le chauffage maintenant. Ils vont l'allumer vers fin novembre seulement pour avoir des baisses d'énergie. Et les chaudières, ils vont les mettre à 19 degrés. Nous demandent de faire des efforts. Pourquoi les grands groupes, ils font pas des efforts? C'est des gens qui ont gagné de l'argent pendant la crise.
Mais excusez-moi, Guillaume. Mais on demande, on a mis en place un bouclier énergétique. EDF fait des efforts puisque EDF perd de l'argent à cause de ça. D'ailleurs, la société est tellement mal en point qu'on va être obligé de la nationaliser. Donc, il faut faire attention à ce qu'on
dit. Alors, Guillaume, on va continuer d'en discuter avec Cédric qui nous appelle d'Ardèche. Bonjour Cédric.
Oui, bonjour Emmanuel.
Alors, vous êtes agent EDF, Cédric?
Tout à fait, je pilote les réacteurs nucléaires à la centrale de Crieff.
Alors.
Et ça marche chez vous?
Il pilote.
Appuyez sur le bouton.
Non, oui, je venais, en fait, je voulais discuter parce que, bon, par rapport à la base des émissions de Noël, et je trouve que vers ce contexte actuel, avec un coup le Covid, un coup la guerre, moi je vois mes enfants, si on leur enlève les émissions de Noël, ça va être morose.
Ben oui.
Oui, oui. Et après, voilà,
le monde est un peu morose, vous me direz.
Mais on n'est pas obligé d'en rajouter.
Je suis désolé, aux États-Unis, ils ne sont pas en train d'éteindre leur guirlande.
Cédric, est-ce que ça aura vraiment.
Il n'y a que nous qui nous tirons, disons.
Les Américains avec leur gaz de schiste.
Allez-y, Cédric.
C'est quand on se bat pour un mauvais combat. Moi, je pense qu'il faudrait plutôt. Après, je sais, je suis agent EDF, j'ai des tarifs, on va dire, préférentiels par rapport à l'électricité.
Ah bon?
Ouais. Mais nous, on se bat pour que tout le monde paye le
même prix. Il faudrait supprimer ça.
Eh ben non, ça c'est mon avantage. C'est moi qui travaille comme le boulanger crée son paye son pain, il paye pas son pain, ou le boucher paye pas sa viande.
Moi, si j'étais patron d'EDF, je supprimerais votre avantage.
Ah bon, d'accord.
Paf.
Ouais, mais non, après,
rassurez-vous, ça va pas se produire a priori.
Non, mais après voilà.
C'est pas pris ce chemin.
Mais... je peux comprendre votre raisonnement après.
Ouais, bon. Mais revenons sur est-ce que ça fait faire des économies d'électricité, Cédric. Est-ce que ça soulage le réseau? Est-ce que ça va soulager le réseau si on a moins d'illumination de Noël?
Non, moi je pense que c'est pas. En fait, le problème c'est par rapport aux tarifs réglementés. C'est pour ça que les communes elles vont baisser le courant. C'est parce que depuis là 2021 là, il y a plus de tarifs réglementés pour les communes et les grandes et les entreprises. Donc maintenant leurs factures ont été multipliées par 3, je crois, de mémoire. Mm-hmm. Et les entreprises sont passées des villes qui sont passées de 500 000 euros d'électricité à l'année à 2 millions d'euros. Donc c'est sûrement pour ça. Après, quand vous voyez qu'en France, le mégawatt peut aller sur RTE et Comix, vous voyez les échanges entre les communes, entre les pays. Nous, en ce moment, je crois que c'est entre 700 et 800 euros le mégawatt. Ben, l'Espagne, ils ont dit stop, maintenant on arrête. Nous, on veut pas dépendre de ça. Donc maintenant, ils sont à 50 euros le mégawatt, le Portugal et l'Espagne.
Exactement, mais parce que le Portugal et l'Espagne a négocié avec la Commission de Bruxelles et ils ont dit, nous, on marche pas avec le système du tarif de l'électricité. Ouais, on ne sait pas pourquoi les Espagnols et les Portugais ont réussi à le faire et nous, on le fait pas, nous.
Ben, parce qu'en fait, je pense que notre chef d'État, il veut vraiment... Franchement, comme moi je dis, on se soumet à l'Europe.
Ah non, vous croyez?
Oh. Passer un moment, on voulait vendre nos barrages hydrauliques. Et hop, c'est bizarre, l'Allemagne, eux, ils ne le font pas, ça. Et voilà. La France, on est obligé de le faire. Donc, il y a plein de choses que moi, je trouve que c'est... Donc voilà, moi, je vous dis, j'ai fait des grèves pour que EDF, qu'on reste national, mm-hmm. et que les Français devraient payer le prix que ça vaut. Nous, on est contre la
le
spéculation.
Le vrai prix de l'électricité, ouais.
Oui, voilà, tout à fait. On est contre la spéculation. Quand j'entendais l'auditeur, il a raison. Je trouve pas ça normal que EDF, donc produit énergie, par rapport à la loi NOM, doit vendre 25% de sa production nucléaire à tous les faux distributeurs. C'est ceux qui...
Il y a qu'un seul producteur qui ensuite fournit aux autres.
Mais ça, c'est les règles européennes du droit à la concurrence des années 2000. Tout ça a été accepté, voté, acté, et nos dirigeants doivent maintenant rendre des comptes sur ce système-là. Quand Monsieur Macron dit maintenant, oui, on va confier à l'Europe tout ce qui est régulation de l'énergie. Bah, excusez-moi, vu la gabegie et le saccage que ça a été, au contraire, il faut reprendre notre souveraineté. Je croyais que le président de la République était attentif à la souveraineté. Ah non, c'est la souveraineté européenne.
Cédric, merci d'avoir conclu notre discussion. Donc, on a eu un petit quart d'heure en parlant ensemble des illuminations de Noël. Est-ce qu'il faut les diminuer? Est-ce qu'il faut y renoncer? C'est la question qu'on a posée sur les réseaux sociaux. C'est un non à 71%. On ne renonce pas aux illuminations de Noël.
Faut pas aller trop loin. Barbara, tu perds à chaque fois. Hein.
Non, mais c'est pas une question de perdre.
Mais non, elle est en colère, tu vois.
Non, pas du tout. Non mais moi Oui, c'est ça.
Ah bah voilà, il est
tellement vieux.
Non,
je veux vous dire, il est tellement vieux. En plus, c'est horrible. Ce truc-là, ça prend l'humidité à la cave.
C'est affreux, c'est dégueulasse.
Tu loupes ça,
c'est
horrible.
Dans un instant, un GG 7 et match à propos des dernières prises de parole de Manuel Bompard, la France Insoumise, et de Jean-Luc Mélenchon sur la gifle d'Adrien Quatennens. Ils disent qu'il faut graduer quand même. Est-ce qu'ils ont raison? Il faut une gradation dans l'indignation, notamment. Ben, on a une équipe qui dit oui, une équipe qui dit non, et on vous attend au 32-16.
Les Grandes Gueules sur RMC avec Biofib. L'isolant en chanvre, idéal pour vos travaux de rénovation. Biofib, ça chanvre tout.
RMC,
9h midi,
Les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Bruno Pommard, le maire de Belflou dans l'eau de l'ancien policier du Raid, Charles Consigny, avocat. Et nous sommes avec Barbara Lefebvre, enseignante en reconversion. Et on y va pour le GG, c'était match.
RMC.
GG, c'était match.
Une gifle est une violence inacceptable. Et dire qu'il faut graduer les sanctions, ce n'est pas minimiser. Voilà ce qu'a dit le député France Insoumise, Manuel Bompard. Et samedi soir, sur France 2, dans la nouvelle émission présentée par Léa Salamé et Christophe de Chavannes, Quelle époque, on a entendu Jean-Luc Mélenchon revenir sur cette question.
J'ai dit qu'une gifle était une violence inacceptable. J'ai dit, et je le maintiens, qu'il y a besoin d'avoir une gradation dans les faits. Je n'ignore pas ce qu'on appelle le continuum en matière de violence conjugale. Mmh. C'est-à-dire que souvent, parfois, peut-être toujours, une violence répétée, elle commence par une gifle. Et les associations féministes, les gens qui travaillent sur ce sujet ont raison de dire que c'est au moment de la première gifle qu'il faut réagir.
C'est vrai qu'il y a un continuum dans les violences. Et bien sûr qu'il faut le stopper. Mais il y a aussi une gradation dans les peines que l'on attribue aux gens.
Voilà, gradation, ce sont les deux mots qui sont employés par Manuel Bompard et par Jean-Luc Mélenchon. Doit-on tenir compte effectivement de cette gradation? On a ce GG, c'était match avec deux équipes qui sont face à face. L'équipe oui, Barbara et Olivier. L'équipe non avec Charles et Bruno. La parole à l'avocat Charles Consigny, il dit non. Pourquoi? 60 secondes, Charles.
Alors, pourquoi j'ai dit non? D'abord, évidemment que sur le plan juridique, si vous comparaissez devant un tribunal pour avoir mis une baffe, il ne va pas vous arriver la même chose que si vous comparaissez pour avoir boxé votre femme tous les jours depuis un an jusqu'à la laisser avec notamment une interruption de travail de plus de 8 jours. Toute la question, c'est, en tout cas en droit, c'est quel préjudice subit la victime, et c'est comme ça que vous graduez au-delà de la répétition du geste, etc. C'est en fonction de ce qu'on appelle l'ITT, c'est-à-dire que quand vous avez un jour d'ITT, on considère que vous n'avez pas subi la même chose que quand vous avez 10 jours. Bon, mais après sur le plan fondamental, moi je pense que dès lors que on lève la main sur quelqu'un, dès lors qu'on est capable d'asséner un coup, on franchit une limite. Et pensez autour de vous, vos proches, des femmes qui a autour de vous, est-ce que vous accepteriez que quelqu'un leur mette une baffe? Et ben vous ne l'accepteriez pas. Donc je pense que par principe, c'est quelque chose qu'on doit pas accepter. C'est pour ça que j'ai répondu non.
Barbara Lefebvre, avec les nuances apportées par Manuel Bompard et Jean-Luc Mélenchon.
Mais bien entendu, mais je suis étonnée. C'est bien que Charles ait commencé par le petit rappel juridique, parce qu'il est fondamental. La question qui nous est posée, c'est doit-on graduer la gravité des violences conjugales? Mais c'est pas doit-on, c'est que dans les faits, de facto, la justice gradue, encore une fois, et tu l'as répété, la loi évoque des sanctions pénales graduées selon le type de violence. Si on est sur les violences physiques, est-ce qu'elles sont légères et isolées? C'est même pas moi qui dis légères et isolées, c'est ce que dit la loi. Bon, ou est-ce qu'elles sont répétées et habituelles? ITT, inférieur à 8 jours, supérieur à 8 jours. Concernant les violences psychologiques dans le couple, c'est pareil, on parle du harcèlement moral de couple, c'est la façon de le dire. Bon, est-ce que la nature et les propos des comportements qui vont être dégradants sont de la même façon, répétés ou pas? Donc là aussi, il me semble que de toute façon, la loi elle-même est dans la gradation et c'est heureux. J'ai été victime, comme je crois beaucoup de femmes, dans le métro de frotteurs. Bon, bah pour autant, je ne suis pas allée au commissariat de police pour dire j'ai été violée. D'abord, le frotteur en question, je crois qu'il s'en est rappelé, parce que je me suis pas laissé faire, et que physiquement je me suis pas laissé faire, et que vocalement non plus. Donc, mais pour autant, je ne me suis pas considérée comme étant victime d'un attouchement sexuel qui était à la limite du viol. Je sais faire la différence entre une femme qui a été violée et un frotteur dans le métro. Donc, bien entendu qu'il y a dégradation, et je n'aurais pas souhaité que le frotteur, qui pourtant doit pas être très net dans sa tête et peut-être effectivement potentiellement un violeur, pour autant, je ne souhaiterais pas qu'il soit traduit devant la justice au même titre qu'un violeur. Donc, je pense qu'à partir du moment où la loi fait dégradation, doit y avoir aussi en politique des gradations dans la façon de s'exprimer.
Dans la prise de parole publique en ce qui concerne Katniss, là on a senti qu'il n'y avait pas justement cette gradation.
Voilà, mais c'est là le problème. Le problème, c'est que on a une certaine catégorie de féministes qui ont décidé qu'il y avait ce fameux continuum de violence, d'accord, et qui vont te dire que un frotteur de métro, c'est la même chose qu'un violeur, que Monsieur Katniss qui a giflé une fois sa femme dans un contexte de désaccord apparemment musclé, conjugal, dans le cadre d'un divorce difficile, c'est un futur tabasseur de femmes.
C'est systémique.
Je suis désolée, ça pose un grave problème dans la façon même de considérer la politique. Ça ne veut pas dire que M. Quatennens a eu raison de gifler sa femme. Mais pas du tout. Ça veut dire qu'effectivement, il a un problème de violence et il ne sait pas se contrôler.
Le problème...
Et pour autant, je n'établis pas ce continuum parce que ces gens-là, ces féministes-là, elles font du tort aux femmes, Bruno, elles font du tort aux hommes et elles font du tort à la capacité des hommes et des femmes à vivre ensemble et à s'aimer aussi et à ne plus s'aimer au moment où ils se séparent.
Défendre une graduation dans la gravité, ça ne veut pas dire excuser. Et c'est pour ça que c'est compliqué notre position avec Barbara, parce que c'est pas excuser. Et d'ailleurs, je n'aime pas la façon dont Bompard et Mélenchon ont dans un premier temps victimisé finalement Quatennens. On avait l'impression que c'était Quatennens la victime. Oui. On saluait son courage et sa dignité. Donc là et on peut pas aller sur ce terrain-là. Quatennens a lui-même avoué avoir giflé sa femme. Donc il est dans cette histoire-là coupable de d'une agression. Et donc il faut pas. Il y a pas de oui mais. Après c'est effectivement normal de dire que du harcèlement moral c'est pas du harcèlement sexuel. Que prendre une femme et essayer de l'embrasser de force c'est pas la même chose que la pénétrer. Enfin, je veux dire, à un moment donné, dire des choses qui sont un peu là-bas, ça permet d'ailleurs de mieux lutter contre ça. Or, avec le phénomène MeToo, on est parti sur quelque chose un peu où tout se vaut, tout est pareil. C'était d'ailleurs l'histoire de ce journaliste qui avait le premier épinglé par le mouvement Ballon
son
port.
Non, mais
Ballon son port, c'est quoi l'histoire?
Il a gagné.
C'est un journaliste qui rencontre quelqu'un qu'il connaît,
Sandra Müller,
est méché et qui lui dit, quand je vois tes seins, en gros, j'ai envie, bon, d'une façon un peu vulgaire, voilà, j'ai envie d'avoir des relations sexuelles avec toi. Mais il n'a pas dit comme ça. Mais c'est que verbal.
Je souhaiterais.
Mais ça a été mis sur le même pied qu'un viol. Non, ce n'est pas la même chose.
Et il a gagné en diffamation contre Sandra Müller.
Mais sa vie a été foutue en l'air, etc.
Moi, je vous trouve bien indulgent, tous les deux.
Voilà, c'est ça le problème. Ce n'est pas de l'indulgence. Je pense qu'avec Barbara, on n'est pas indulgent.
Pas indulgent, mais complaisant.
Oui, complaisant.
Ni complaisant. Mais non, de ne pas tout mettre dans le même plan. Toi qui es policier, j'espère que tu ne le fais pas.
Je vais vous dire pourquoi vous perdez là. Parce que moi, je rencontre dans mes équipes à Arrêt d'Aventure, j'ai beaucoup de policières qui s'occupent de ces problématiques de violences faites aux femmes. Et je rigole, mais c'est pas du tout marrant le sujet entre nous. Quand ça commence par des gifles, généralement, ça finit par du tabassage. Mmh. Et dans beaucoup de cas. Et c'est factuel ce que je vous dis. C'est pas, je l'invente pas ou je l'ai pas lu sur un bouquin. Nombre de mes amis policières qui traitent de ces dossiers sont devant des faits très graves à chaque fois. Ça commence par des gifles et puis ça finit par presque de la barbarie. Ouais, mais ça veut dire que tout doit être sanctionné de façon très stricte, qui plus est lorsqu'on a des personnages comme des députés qui sont censés
graduer
la règle, la loi, les institutions, qui doivent être sanctionnés à la hauteur de
ce qu'on est. Très strict, mais de façon graduée au regard des faits commis.
Voilà.
Très strict, mais gradué. Seulement le problème, c'est que quand tu as quelqu'un qui vient gifle sa femme, excuse-moi, là, monsieur Quatennens, s'il s'est fait attraper sur ce coup-là parce que la main courante, etc. Mais combien on en a vu des jeunes femmes tuées par leur mari? Oh, on avait appris qu'on les connaissait, ils étaient multirécidivistes, mais ça va, ils se baladaient tranquilles, voire ils étaient retournés dans le domicile conjugal. Non, mais il y a un autre problème. Toutes ces affaires, vous remarquez, c'est des affaires liées à la sphère conjugale, à la sphère domestique, qui sont d'ailleurs l'essentiel des violences et violences intrafamiliales. Eh bien, la loi, excusez-moi, elle distingue entre le harcèlement conjugal sexuel. Ça, c'est 2 ans de prison. Mmh. Le harcèlement conjugal sexuel simple, entre guillemets, et le viol conjugal. Et le viol conjugal, ça peut aller jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Si le juge lui-même, la loi elle-même, distingue entre ça et ça, c'est qu'il y a une distinction, c'est qu'il y a une gradation. Alors, votre histoire de continuum, en réalité, c'est le discours de Caroline de Haas, de Rousseau, etc., qui, elle, t'explique que non, le harcèlement conjugal sexuel, qui est réprimé déjà par la loi sévèrement et qui doit l'être, c'est la même chose qu'un viol conjugal. Ces gens-là font de la relativisation permanente et la posture que Olivier et moi on a aujourd'hui, c'est juste de dire attention à pas tout le temps faire des grands amalgames de choses qui ne doivent pas être amalgamées.
Si on veut lutter contre ces violences, il ne faut pas faire d'amalgame. Qu'un tribunal procède à une gradation au moment où on juge quelqu'un, où on examine des faits, etc. Mais vous ne supporteriez pas que votre mère, votre sœur, se prenne une baffe de son mec. Vous iriez faire quoi? Vous iriez lui mettre une droite probablement en réplique,
sûrement. Bon,
et il l'aurait pas volé. Et donc, moi, je trouve qu'installer cette idée de attendez sur le plan, je parle pas sur le plan juridique, judiciaire. Mais je parle sur le plan médiatique et politique. Si on commence à dire, il faut graduer, il a juste mis une baffe, c'est pas non plus comme si il l'avait roué de coups. Non, mais enfin, il lui a quand même mis une baffe. Donc, Pour moi,
c'est ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon.
C'est une faute.
Il a dit, la gifle était il y a un an, il n'y en a pas eu depuis un an, on doit tenir compte du fait aussi qu'il s'excuse.
D'abord, on n'en sait rien s'il n'y en a pas eu depuis un an.
Il n'en sait rien du tout, il parle beaucoup.
Mais par exemple, Charles, tu es d'accord avec moi que la gifle de Quatennens, ce n'est pas le harcèlement de morale également.
C'est pas le harcèlement de Denis Baupin de sur Sandrine Rousseau.
Non, mais le harcèlement moral de Bayou, puisque visiblement Bayou, il serait accusé d'avoir harcelé moralement, donc de s'être mal comporté moralement.
Bayou, il a démissionné.
Avec son ex. Bon, sincèrement, et non, on met tout sur le même.
Mais si, Bayou n'était pas obligé de démissionner.
Si, Sandrine Rousseau a exigé sa démission, non, comme elle a exigé celle de Quatennens.
Mais oui, arrêtez avec Sandrine Rousseau.
Oui, mais les féministes.
Mais pour une fois, sur ce sujet-là, elle est droite dans ses bottes. Et ça, ça, on peut pas lui reprocher.
Tout ne se vaut pas.
Excusez-moi.
Et je ne veux pas défendre Bayou. Mais ce n'est pas la même chose.
On va regarder la gradation, la gravité dans les violences conjugales. Mais c'est dans la. Alors, qu'on se trompe pas, c'est pas du point de vue juridique. C'est simplement dans la manière
dans le traitement.
Dont on en parle publiquement, médiatiquement, c'est un oui. Ça va plutôt dans le sens de Barbara et d'Olivier, oui, à 52-48. Et la discussion continue dans un instant sur RMC, RMC Story.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, RMC, RMC Story, les GG avec Charles Consigny, Bruno Pommard. Pour une fois, on a un policier et un avocat qui sont ensemble.
Et absolument. Tu sais, c'est voilà, on n'est pas du tout du même monde, Charles et moi. Et on est d'accord sur ce sujet.
Attention, il en remet une couche.
Mais non, mais c'est vrai.
La vache.
Excusez-moi, Charles. On peut le dire.
Je commenterai pas.
On a le baveux et le cogneur.
Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais il n'ose pas répondre. Mais réponds.
On a Barbara contre et nature. Olivier de
mettre répondre. Mais je ne comprends pas ces histoires dont on n'est pas du même monde. Moi, je me sens du même monde que tout le monde.
Ah non, c'est parce que tu me disais hors antenne tout à l'heure. Excuse-moi, mais.
Non, mais on va pas refaire le débat qu'on a eu en antenne. C'est vrai que. Parce que Bruno Pommard en antenne me dit, je vais te faire découvrir la vraie vie. Ouais, viens dans mon village. Et je lui ai dit, je t'emmerde avec ta vraie vie. J'ai une vraie vie.
Et ton village,
je suis bien à mes besoins depuis extrêmement longtemps. Je suis totalement indépendant.
Voilà le mépris.
J'ai une vraie vie. Bah oui, excuse-moi.
Voilà ce que c'est le mépris.
Non, mais c'est pas du mépris.
Charles, il y en a
c'est
marre.
C'est toi qui as du mépris.
Il y en a marre de dire à Paris, vous n'êtes pas dans la vraie vie.
C'est incroyable.
Les amis, c'est un peu ça.
Mais non, mais la vie, c'est la vie. Il y a pas des vraies et des fausses vies.
Eh ben,
si peut-être Bernard-Henri Lévy a une fausse.
Venez passer une semaine chez moi, moi j'aurai du cassoulet, vous verrez ce que c'est.
Bah, j'ai mangé du cassoulet.
Excusez-moi, c'est pas.
Non, on mange pas de cassoulet.
Ah non, ça
exagérer.
Cassoulet, genre.
On n'est pas. Ouais.
On va faire viens dans mon Jura, tu vas lui faire, et ensuite c'est viens dans l'Aude. On va donner la parole à Jonathan du Pas-de-Calais. Bonjour, Jonathan.
Bonjour. Le baveux, le cogneur, c'était pas mal.
Le cogneur, ça fait un bon film avec.
Vous avez raison. Alors, est-ce qu'aujourd'hui il faut apprendre à graduer la manière dont on parle de ces violences.
La manière dont on tape sa femme. Les violences qu'on inflige à ses proches.
C'est ça le terme.
Le problème, c'est que Mélenchon, il est gentil, mais il veut défendre son lieutenant, tout simplement. Ça aurait été quelqu'un de plus bas dans son parti, il aurait rien dit, et il aurait mis la tête sous l'eau.
Ou quelqu'un de l'opposition.
Oui, mais Mélenchon est gentil quand il avait apostrophé le policier sur le plateau de Cyril Hanouna en lui disant, en le mettant sous terre pour un truc supposé qu'il n'avait pas fait en plus.
Non mais là vous avez raison, Jonathan. Il serait crédible, Mélenchon, si il avait évoqué le fait de graduer la gravité des violences conjugales à propos d'Amir Abad ou d'autres, mais c'est de ses adversaires politiques. Ouais, c'est vrai que et tout d'un coup, les insoumis ont découvert la nuance avec Adrien Quatennens, une nuance qu'ils n'accordaient pas à leur adversaire. D'ailleurs, quand j'entendais Emmanuel Bompard dire, vous comprenez, c'est scandaleux, c'est la presse qui a révélé Quatennens. Mais quand la presse a révélé Abad, j'ai pas souvenir que Bompard reprochait à la presse d'avoir sorti l'affaire Abad.
Excusez-moi, attendez, Jonathan. Oui. Damien Abad, il y a des enquêtes, rien n'a été prouvé.
Et surtout, non, il est fait.
Et Adrien Quatennens, il a écrit et reconnu ce qui s'était passé. Allez-y, Jonathan.
Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est que moi, dans mon boulot, je dois être plus blanc que blanc. Si j'ai une inscription sur mon casier judiciaire, ben, j'ai perdu mon boulot, je dégage.
Que faites-vous dans la vie, Jonathan?
Je suis dans la police des transports.
D'accord.
Alors c'est pas vraiment la police nationale, nous on dépend de la SNCF, donc c'est encore autre chose.
C'est
la SUGE, ouais, voilà. Ouais. Du coup, nous on doit être plus blanc que blanc. Si demain je mets une gifle à ma femme ou à mon voisin ou quoi que ce soit, qui dépose de plainte, je perds mon boulot. Là, le mec, Quatennens, il est gentil, mais il est aux responsabilités. Il doit être plus blanc que blanc lui aussi, et puis pas que pour lui. Moi, je dirais pour l'ensemble des personnels politiques.
Pour vous, il peut pas rester député.
Pardon?
Pour vous, il ne peut pas rester député 4 mois.
Moi, à un moment donné, il doit savoir se tenir, ces garçons. Moi, j'arrive, je ne suis pas député, je suis simple agent de la sûreté ferroviaire. J'arrive à me tenir tous les jours, il faut qu'il fasse pareil.
On est bien d'accord, un homme, ça se contrôle. Un homme, une femme, quand on est dans un conflit, on se retient de mettre des gifles, on se retient d'arracher le portable de l'autre, on est bien d'accord. Néanmoins, moi, on me pose une question sur doit-on graduer la gravité des violences conjugales ? Je pense que la loi, et je suis dans un état de droit, je regarde ce que dit la loi me dit il y a une graduation. Ce que je condamne, c'est la façon dont ces néo-féministes ont essayé de dire que ce continuum n'est pas en réalité un continuum, et une seule et même chose, c'est-à-dire que une gifle est égale à une violence répétée d'un tabassage. Moi, je suis désolée, ce n'est pas vrai. Donc, j'espère que la NUP, que les insoumis, à cause de ce qui leur arrive maintenant, vont commencer à comprendre qu'ils ne peuvent pas tout le temps tout amalgamer et faire et noyer une diversité de situations dans un seul et même tout qui leur permet souvent, effectivement, d'accuser leurs adversaires politiques. Ben là, quand ça leur retombe sur la tronche, on va voir si ça les fait évoluer. Donc, c'est pour ça qu'on ne s'oppose pas sur le fond. On est tous les quatre d'accord autour de la table. Mais on dit simplement, si la loi fait des nuances, il faut que les politiques aussi les fassent, et que donc les premiers qui auraient dû les faire, c'est les insoumis. Ils ne l'ont pas fait, c'est ça qui leur retombe dessus.
Ils ont une facilité à victimiser le mis en cause.
Allez-y,
les insoumis, ils sont très forts là-dessus.
Quand c'est les leurs.
Ils créent une affaire dans une affaire.
Allez-y,
et
Jonathan, pardon.
Et ça, c'est une facilité qu'ils ont.
Charles l'a dit tout à l'heure, si le député leur a mis la tête à sa femme comme un compteur à gaz, il aurait mangé chou au tribunal. Mais là, c'est sûr qu'il prendra pas la même chose que s'il avait démoli sa compagne.
Ça n'a pas encore été jugé.
Donc la proportionnelle, elle se fera. Elle se fera au tribunal, dans tous les cas.
Qu'on parle de lui comme s'il avait tabassé sa femme, en fait, en réalité.
On parle de lui parce que c'est un député et qui est une tête d'affiche de son parti. Mais ça serait le pimpin qui colle les affiches, personne n'en parlerait de ça.
Ouais, justement, Jonathan, c'est Pierre qui veut continuer votre propos avec un exemple personnel. Pierre qui est du côté du Loiret. Bonjour, Pierre.
Bonjour.
Bonjour. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut avoir une espèce de nuance dans la présentation des faits en fonction de leur gravité, Pierre ?
Franchement, moi, je vous entendais, je boue là depuis tout à l'heure, je boue. Je suis étonné, je suis vraiment étonné en fait que je pensais que les intitulés allaient changer, que Barbara, pour le coup, ne voudrait pas de nuance. Je suis étonné. Moi, honnêtement, je comprends ce que vous dites tous. Jonathan aussi a résumé très bien. Charles l'a dit. Au pénal, effectivement, sur une graduation. Là, nous, on est là pour juger de la morale. Et ben, au niveau de la morale, pour moi, il n'y a pas de graduation. D'autant plus que ces gens-là nous passent leur temps à nous dire ce qu'on doit faire, à nous dire ce qu'on ne doit pas faire. Donc, ils doivent être exemplaires. Il y a un moment, je dois rien savoir.
C'est
l'effet boomerang, ça.
C'est l'effet boomerang, oui.
On est d'accord, ça, je suis d'accord.
Jonathan, c'est l'effet boomerang.
Vas-y, Pierre. Dans la police des transports, moi, je suis militaire. Moi, c'est pareil, hein. C'est pareil. Moi, je peux vous dire un truc, c'est que je fais un vigie pirate, un truc comme ça. Il y a un mec qui m'insulte, il y a un mec qui me pousse. Je le pousse pour me protéger. Ça va me retomber dessus. Et ce sera en premier Monsieur Mélenchon qui viendra filmer la scène pour dire vous avez vu ce qu'il a fait. Il est incapable de tenir ses nerfs. Donc quand moi je suis incapable de tenir mes nerfs, le mec, on parle quand même Quatennens. Il parle d'un mec, il était censé aimer sa femme. Enfin, moi je vous dis personnellement, j'ai vu toute mon enfance, hein, j'ai vu mon père insulter ma mère. J'ai vu mon père au début tirer les cheveux. Après, j'ai vu mon père frapper ma mère. Après, j'ai vu mon père mettre des coups de poing à ma mère. Enfin, non, ça, pardon, je l'ai pas vu, c'était l'enfant juste avant moi que ma maman a perdu parce qu'elle a pris des coups de poing dans le ventre pendant la grossesse. Donc, si vous voulez, ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Et moi, aujourd'hui, j'ai 32 ans. Moi, je peux vous dire, moi, mon épouse, on se prend la tête. On a deux petits loups, un de 4, un de 1 an. On se prend la tête sur l'éducation, on se prend la tête sur plein de choses. Sauf qu'aujourd'hui, moi, j'ai une peur, c'est de finir comme mon père. Donc, quand on se prend la tête avec mon épouse, des fois, ça monte. Et vous savez ce que je fais ? Eh ben, je m'en vais parce que je me dis, si là, tu flanches, si là, tu l'insultes, si là, tu lèves la main sur elle, t'es faible. Tu vaux pas mieux que ce que t'as vu toute ton enfance. Et quel exemple tu vas donner à tes enfants? C'est ça qu'on veut, en fait. Donc, en fait, à partir, je suis désolé. Alors après, on peut encore une fois, d'un point de vue de la morale, se dire, Monsieur Bayou qui fait de la, entre guillemets, de la violence psychologique sur ce, sur son ex-épouse, son ex-petite amie, blabla. C'est, bien sûr qu'il l'a pas frappé. Mais est-ce qu'on sait aussi ce que derrière la personne, comment elle le vit? Parce que vous savez, les frustrations, c'est à l'échelle de ce qu'on vit. Hein. On parle toujours, on parle des enfants qui vivent dans la rue et compagnie. Demain, vous avez le fils d'un milliardaire, il a passé Nike Air, il va vivre une plus grande frustration que le gamin qui sera fait taper toute sa vie. Donc, il y a un moment, il faut mettre les choses dans le contexte. Ces gens-là, je suis désolé, ces gens-là, ils passent leur vie à nous faire la morale, à nous dire ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Donc, il y a un moment, moi, vous savez, il serait bouché, il arrêterait, il serait n'importe quel job. J'en aurais rien à carrer, et tout. Mais je peux pas l'entendre.
L'exemplarité.
Non, mais non seulement
Par rapport à votre parcours.
Il doit être exemplaire, mais en plus, son problème, c'est qu'il n'a pas arrêté de faire la leçon aux autres. Et comme l'a dit l'auditeur précédent, ça aurait été pimpin le colleur d'affiche, on n'en aurait pas entendu parler. Donc, la problématique,
mais
elle est là.
On n'a jamais dit qu'il devait rester député.
Voilà.
Par exemple.
On n'a pas dit ça. On dit simplement.
Si oui ou non, il doit rester député.
Voilà. On dit simplement qu'aujourd'hui. Non, mais on dit simplement qu'aujourd'hui, la façon dont ces néo-féministes évoquent une gifle d'Adrien Quatennens, qu'il a lui-même reconnu, d'ailleurs qu'il avait lui-même avoué, puisqu'en fait c'était pas publiquement su, c'est lui qui l'a dit. Et ces néo-féministes en parlent comme s'il avait tabassé sa femme tous les jours. Et je vais vous dire, pour les femmes qui se font tabasser, c'est important qu'on parle des violences conjugales, mais pour les femmes qui se font vraiment tabasser, qui quand elles vont au commissariat, on leur dit « Ah bah oui, repassez lundi, parce que vendredi on n'a pas le temps de prendre votre plainte parce que ça prendra trop de temps, revenez lundi », elles sont vraiment dans une difficulté, elles sont vraiment dans des situations graves, et elles veulent qu'il y ait effectivement une gradation qui puisse leur permettre, dans la gravité dans laquelle elles se trouvent, d'être bien accueillies et bien traitées.
Pierre, je vous remercie, tout comme Jonathan et Pierre.
Merci Pierre pour votre témoignage.
Voilà, nous avoir livré votre vécu, c'est jamais simple d'en parler comme ça ouvertement. On va terminer avec ce qu'on appelle la consultation. Doit-on graduer comme ça la gravité, la manière dont on en parle, hein, dans les violences conjugales? Oui, à 57%, c'est plutôt en faveur de Barbara et d'Olivier face à Charles et Bruno. On se retrouve demain à 9h30, de nouveaux sujets de discussion avec tous vos témoignages, encore comme Pierre et Jonathan à l'instant au 32-16. Demain, nous serons avec le restaurateur Stéphane Manigold, avec Jérôme Marty, le médecin généraliste, et la coach de vie Joël Dagosséry. En attendant, on va laisser la place avec plaisir et toujours de l'émotion. Estelle Denis, chère Estelle, bonjour.
Salut Alain, salut les GG. Écoutez, nous on va parler d'Elisabeth Borne, qui annonce.
Ah, chez nous ce matin.
Mais elle a l'air bien. Elle a annoncé une décision sur la réforme des retraites avant la fin de la semaine. Le gouvernement doit-il foncer sur ce dossier? On vous attend au 32-16. Un projet de loi à l'étude pour interdire les arrêts maladie en téléconsultation. Est-ce que c'est logique ou scandaleux? Et puis enfin, un automobiliste sur deux est aujourd'hui empêché de rouler dans les grandes agglomérations, car il ne respecte pas les critères environnementaux des zones à faible émission. Est-ce qu'il faut supprimer ces zones? On vous attend au 32-16.
Bonne émission, bon débat avec Estelle. Rendez-vous pour les GG demain, 9h.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi. RMC, football. Samedi 4 mai à 15h, au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury, finale de la Coupe de France féminine, le 4 mai à Montpellier, avec RMC.